avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. Aujourd'hui, nous retrouvons Olivier Drapé pour l'Observatoire sociopolitique diocésain. Bonjour Olivier.
Bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la parole à Radio La Pourdie et je souhaiterais vous parler d'un livre qui est sorti en août 2023, l'année des 10 ans d'élection du pape François. Pour vous parler de ce livre de Jean-Marie Guénois qui s'intitule « Pape François, la Révolution » aux éditions Gallimard. C'est un livre intéressant parce qu'il permet de mieux cerner la personnalité complexe du pape François, mais aussi de mieux comprendre la méthode qu'il applique et l'état d'esprit dans lequel il mène depuis 10 ans la barque de pierre et l'Église universelle. Le mérite de ce livre est entre autres d'aborder dans un premier point la personnalité du pape François, c'est-à-dire ses qualités et ses défauts, et souvent ses qualités sont parfois des défauts. C'est-à-dire que Jean-Marie Guénois ne cache pas la résolution, la détermination du pape François. On peut dire que le pape François est un pape autoritaire et même dirigiste. Et il le relève, par exemple, en écrivant « Ce qui se figure, un pape souriant et affable, dans la gestion des affaires comme il l'est lors des audiences publiques, se trompe. François est un patron adossé à une culture jésuite de l'obéissance sans condition exigée à des collaborateurs directs. Il n'y a qu'un chef, c'est lui. » Contrairement à son discours sur l'esprit synodal de l'Église, François aura gouverné seul et de manière autoritaire, ses ministres devant se référer directement au pape. En même temps, Jean-Marie Guénois, qui a une certaine admiration pour cette détermination du pape François, insiste sur le côté très politique et aussi sur l'habileté, bien sûr, du pape François, et il en donne de nombreux exemples. Il explique, par exemple, que pour contourner une certaine, inertie, c'est le moins qu'on puisse dire, de la curie romaine, à laquelle s'était heurté d'ailleurs le pape Benoît XVI, eh bien, le pape François a su gouverner la curie par le biais d'un gouvernement parallèle, c'est-à-dire des cardinaux sur lesquels il s'est appuyé, ou des évêques sur lesquels il s'est appuyé, en court-circuitant, dans certains cas, les dicastères qui pouvaient paralyser son action. De même, Jean-Marie Guénois, pour montrer l'habileté du pape, rappelle qu'il a su s'appuyer, premier pape jésuite de l'histoire, sur un réseau de 15 000 jésuites disciplinés et voués à la papauté, je cite Jean-Marie Guénois, à Rome comme dans le monde entier, à travers des nominations au Vatican, comme au cours des voyages qu'il peut entreprendre d'un bout à l'autre de la planète, et qui lui permettent de rencontrer ou de recevoir les jésuites des différents pays où il se rend. De même, très politique, le pape plaît aussi dans la nomination des cardinaux auxquels il a procédé depuis le tout début de son pontificat. Ce qu'il a fait en se projetant dans l'avenir, certainement en vue du conclave qui désignera, bien entendu, son successeur. Et à cet égard, Jean-Marie Guénois écrit de façon intéressante « François, contrairement à ses récents prédécesseurs, a anticipé sa succession en choisissant avec soin des cardinaux nommés selon le critère conciliaire, à savoir leur pleine adhésion à une église du Concile Vatican II, sans retour, sans marche arriérisme vers le passé et la tradition. » Donc le pape, effectivement, a cette volonté très très claire. Qu'ont pu observer tous les vaticanistes, comme on dit, ou un certain nombre de journalistes. Le pape sait en même temps être pragmatique, c'est un point sur lequel insiste Jean-Marie Guénois, c'est-à-dire qu'il sait s'adapter à l'évolution de la situation et tenir compte d'un certain rapport de force. On l'a vu à différentes reprises, mais on l'a vu par exemple Par exemple, en ce qui concerne la situation en Chine, le pape est intransigeant en général sur le respect des droits de l'homme, mais vis-à-vis de Pékin, le Jean-Marie Guénois note que le pape n'a pas souhaité évoquer la question des droits de l'homme, ne serait-ce que pour ne pas compromettre l'accord qui avait été signé sur la nomination des évêques avec le gouvernement de la République populaire de Chine. Et il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer qui sont importants, par exemple concernant l'admission d'hommes mariés au sacerdoce qui avait été voté à une voix près, mais qui avait été voté lors du synode sur l'Amazonie. Le pape, face à la parution d'un ouvrage du pape émérite Benoît XVI et du cardinal Sarah, a jugé que les temps n'étaient pas mûrs et que l'opposition était trop forte, et il a préféré sursoir, ce qui ne veut pas dire renoncer, mais le pape sait donc tenir compte d'un certain rapport de force. Donc, personnalité complexe mais intéressante du pape François. Plus intéressant, la méthode utilisée par le pape François. Pour ce qui est de la méthode utilisée par le pape François, il faut se référer à son exhortation apostolique de 2013, qui s'appelle « Evangelii Gaudium », la joie de l'évangile, avec quatre principes qui explique beaucoup la politique du pape François. Premièrement, le temps est supérieur à l'espace. Deuxièmement, l'unité prévaut devant le conflit. Troisièmement, la réalité est supérieure à l'idée. Quatrièmement, le tout est supérieur à la partie. Alors, prenons comme premier principe, le temps est supérieur à l'espace, ça permet de travailler à long terme sans être obsédé, explique Jean-Marie Guénois, par les résultats immédiats, d'où la stratégie des petits pas qui caractérise le pontificat de François. Et un certain nombre d'exemples en sont donnés. Par exemple, en ce qui concerne une question délicate qui est l'accession au sacrement des divorcés remariés, Jean-Marie Guénois écrit « Ainsi de sa stratégie des petits pas sur les réformes internes à l'Église typiques pour la réforme de la Curie et du synode sur la synodalité lancée en 2021 sur 3 années, un temps long pour que l'Église, tout en réfléchissant à une nouvelle modalité de gouvernance plus collective et démocratique, change sa façon même de décider au fur et à mesure de cette réflexion, des changements en apparence mineurs qui finissent par provoquer une révolution de la pensée ou des pratiques. Apprendre en marchant, réformer en marchant pourrait être le propre de la méthode de réforme de François, qui vise donc le long terme, on l'a compris. Deuxième point important, la réalité supérieure à l'idée, ça explique la primauté de la pastorale par rapport à la doctrine depuis le début du pontificat du pape François. La pratique, pour ne pas dire la praxis, a beaucoup plus d'importance que la théorie, la pastorale beaucoup plus d'importance à ses yeux que la doctrine, comme on le voit à travers un grand nombre d'exemples que donne là aussi Jean-Marie Guénois, je n'en citerai qu'un, qui concerne le point suivant. Affirmer que la réalité était supérieure à l'idée, écrit Jean-Marie Guénois dans son livre, est une rupture avec les us et coutumes du Vatican qui se réfèrent plutôt aux usages du passé, au protocole établi qui dicte le mode d'action et de décision ou encore à l'enseignement dogmatique pour définir ce qu'il convient de penser. En introduisant cette primauté du réel sur le monde des idées et le monde spirituel, le pape a aussi inversé une hiérarchie établie entre la prière et l'action. Le pape Benoît XVI plaçait, lui, la prière avant l'action, sans les opposer, l'une étant source de l'autre. François ne les oppose pas davantage, bien entendu, mais il place l'action au premier plan. Donc là, on voit effectivement cette préoccupation de la pastorale, Et qui se traduit aussi de différentes manières, par exemple, en ce qui concerne le synode sur la famille et la question des divorcés remariés dont nous avons parlé, le pape François, écrit encore Jean-Marie Guénois, a choisi de ne pas écouter les docteurs en théologie, mais de donner la parole aux pasteurs du terrain. Il a voulu chercher une voie pastorale, c'est-à-dire pratique, mais pas théorique. Il ne s'agissait pas pour lui de refaire la doctrine de l'Église, mais de réfléchir à la façon de l'adapter pour les situations particulières, en permettant, dans certains cas, à certaines conditions, l'accès au sacrement de personnes divorcées, remariées. Ce souci de la pastorale amène aussi de la part du pape François vraiment une sorte de praxis, c'est-à-dire la volonté de transformer la mentalité des fidèles et des clercs en les impliquant dans le mouvement qu'il a lui-même impulsé. Je m'explique en citant là aussi un passage de Jean-Marie Guénois. Le pape François vise la transformation de l'Église catholique, hiérarchique et disciplinée, en une assemblée chrétienne égalitaire, non par la proclamation de la théorie synodale, mais par des exercices successifs concrets, des mises en œuvre dont le but est de modifier les habitudes et les façons de penser en marchant ensemble. On retrouve là, d'ailleurs, plus ou moins l'esprit du synode. Donc il y a cette praxis. Et puis, il y a un autre point qui est... finalement, qui découle d'un autre principe, l'unité prévaut sur le conflit, et même le tout est supérieur à la partie, qui explique que le pape François considère qu'il y a une certaine légitimité des conflits et des désaccords. Il ne cherche pas à les étouffer ou à les éviter. Il ne craint pas les désaccords ou les oppositions. Il considère, selon Jean-Marie Guénois, qu'il peut exister non seulement une légitimité du conflit, mais une dynamique du désaccord qui permet une certaine fécondité, qui permet de porter des fruits, et c'est ce qu'explique là aussi clairement Jean-Marie Guénois dans cet ouvrage, très bien informé, très bien renseigné, à propos du pape François, puisqu'il écrit... également que le pape François s'attache à la notion de dynamique du désaccord où les oppositions, si elles ne sombrent pas dans la contradiction stérile, peuvent être fécondes et créatives. Et on l'a bien vu à travers, par exemple, la façon dont le pape François a remis en cause le motu proprio de Benoît XVI sur la possibilité de célébrer la messe selon l'ancien rite. Le pape François n'a pas eu peur, comme je le disais il y a un instant, du désaccord ou des oppositions que cette décision a pu entraîner. Bon. Donc la méthode, c'est un point très important et très intéressant, mais il y a encore dans ce livre, effectivement, un rappel, non pas sur la méthode mais sur le fond, du programme réformiste du pape François, sur lequel je ne m'étendrai pas parce qu'on le connaît, mais je citerai juste un passage dans lequel il évoque... Il rappelle que François a été élu sur le programme le plus réformateur qui soit, porte-étendard de l'esprit du Concile en faveur d'évolutions nettes en direction des divorcés remariés, par exemple, d'un statut clérical pour les femmes, d'une révision à terme de la discipline du célibat sacerdotal, d'un affaiblissement du pouvoir central et dominateur de la curie romaine, au profit d'une décentralisation des décisions prises par des conférences épiscopales plus proches du terrain, bref, d'un concile Vatican II vraiment appliqué dans sa visée réformatrice et dans son ouverture au monde. Et c'est à ce titre, écrit Jean-Marie Guénois, que François se considère comme l'héritier de Jean XXIII qui avait convoqué le concile Vatican II. Mais pour terminer, on doit tout de même mentionner que Jean-Marie Guénois se montre assez critique sur un certain nombre d'orientation du pape François sur le fond. Sans doute l'auteur est-il d'une sensibilité plus traditionnelle que le pape François. Il déplore la rudesse du pape François qui souvent a braqué un certain nombre de catholiques, des contradictions dans ce pontificat puisque le pape François qui prône le dialogue et la synodalité a un mode de fonctionnement très centralisé et autoritaire comme nous l'avons dit, de même que Jean-Marie Guénois redoute, à mon avis à juste titre, mais c'est une question d'opinion, redoute une certaine relativisation de l'enseignement de l'Église, du magistère, de la doctrine, qui risque de créer une confusion parmi les fidèles. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage, qui fourmille d'informations et d'anecdotes intéressantes, est un ouvrage dont je recommande vraiment la lecture à tous les auditeurs.
Le pape François de Jean-Marie Guénois aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Olivier Drapé, nous espérons vous retrouver le mois prochain.
À bientôt.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.